Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour et se tranquillement installer chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, en l'absence de Catherine, ce sera Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors, puisque c'est toi qui lis aujourd'hui, explique-nous quel est le titre du roman que tu as choisi.
Alors, le roman que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle Solac. Et il est d'une auteure qui s'appelle Caroline Hinault. C'est un petit bouquin qui est paru en 2021 aux éditions du Rouergue. Je précise que Caroline Hinault est une nouvelle auteure de nationalité française et que nous avons découvert dans le cadre du prix littéraire blésois, le prix Robles.
C'est donc un premier roman ?
C'est donc un premier roman, oui.
Le Robles s'adresse uniquement au premier roman.
Au premier roman, de langue française.
Tu peux nous dire quelques mots du Robles ?
Quelques mots du Robles.
Même si tous les Blésois connaissent.
Évidemment. Alors, le Robles a été créé en 1990. Ça commence à faire un petit bout d'ailleurs.
Ah oui.
Ça ferait bien 32 ans. 32 ans. Et donc, il existe sur l'agglomération blésoise. Il a été créé à Blois. Mais on en parlait tout à l'heure et tu me disais qu'il y avait un comité, par exemple, qui était...
En Dordogne.
En Dordogne, par exemple. Je crois qu'il y a des comités, d'ailleurs, dans des pays étrangers.
Et il me semble qu'il y en a...
Europe. Oui. Tout à fait.
Il y en avait un à la prison à une époque. Je ne sais pas si ça existe encore.
Voilà, oui, parce que la prison, on n'y va pas souvent.
On n'y va pas souvent, c'est vrai.
Et donc, c'est forcément un premier roman édité en langue française.
D'accord.
Et donc, ça veut dire que ce sont des nouveaux auteurs ou autrices. En fait, on s'aperçoit que souvent, ces nouveaux auteurs ou autrices, ils ont déjà écrit des nouvelles ou des scénarios pour films, des choses comme ça.
Mais c'est un premier roman.
Mais c'est un premier roman, exactement.
Et donc, si je ne m'abuse, ça fonctionne par comité. Il y en a une cinquantaine, je crois.
Il y a une cinquantaine de comités, exactement. Sauf que ça, autrefois, l'inscription se faisait vraiment par comité, alors que maintenant l'inscription est individuelle. Mais n'empêche qu'il y a donc une cinquantaine de comités qui se réunissent régulièrement
pour parler
discuter
des
6 livres qui sont donc en compétition. Voilà comment ça se passe.
Voilà, c'est un prix du public et non pas le prix d'un jury.
Oui, c'est vraiment le public qui, en votant, décerne le prix.
Voilà.
Et on peut dire, par exemple, qu'il y a des auteurs qui ont bien tourné depuis. Je pense notamment à Carole Martinez.
Ah oui.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
Donc, remise des prix, c'est au mois de mai, la remise des prix, non ?
Oui, oui.
C'est,
hein ? C'était au mois de mai.
C'est
donc
un peu plus tôt que... un petit peu plus tôt que d'habitude. Les auteurs nominés donc viennent tous à Blois.
Oui, c'est une obligation pour eux. Il faut absolument qu'ils soient tous présents. Et ils se présentent. Et il y a des petits films réalisés sur chacun d'eux, etc. Ça donne une après-midi très agréable de conversation entre les auteurs et les spectateurs
et
que nous sommes. Et le public.
Ouais. Et les lecteurs.
Voilà. Et les lecteurs que nous sommes. Exactement. Août. Un autre câble en l'air, une langue qui se déplie depuis la gueule de l'hélico et une silhouette de gamin qui descend laborieuse. C'est pas bon signe, bordel. Il va pas rester coincé entre ciel et terre, ce couillon-là qui jette des regards dessous lui. Il doit être en train de se demander ce qu'il est venu foutre dans cet enfer qui se passait très bien des hommes. Mais il faut bien qu'il y ait un lieu, c'est celui-là. Sûr que ça s'oublie pas. Le spectacle qu'il devine au bout du vide, là tout en bas à la racine du vertige, le gros œil de la presqu'île qui le fixe mauvais sous ses paupières d'eau froide. Le câble coulisse, le gamin se balance dans les rafales, agrippé au filin comme un nourrisson à sa mère. Nous trois, on le regarde faire, tête en l'air, cou cassé. Ceux de là-haut continuent à dérouler le fil qui n'est plus qu'à quelques mètres du sol. Enfin, la queue du câble caresse les poils de la toundra et le gamin pose 2 guiboles flageolantes par terre, tête baissée sous la capuche fouettée par l'air. Avec le vent et le souffle de l'hélico, ça lui prend plusieurs minutes de se détacher du harnais, sans parler du froid qui engourdit ses droits. Il nous fait signe, se met à l'écart. On se précipite dans l'enfer des bourrasques, nos capuches sur la fente du regard, on saisit les câbles, les pinces, on réattelle tout le merdier, le conteneur tout juste accouché de son précieux chargement dans lequel on a calé comme on a pu le cercueil d'Igor. On recule loin pour observer le troc du mort vivant, on fait signe là-haut que c'est bon, on attend. Attendre ces 1000 petites bouches de froid qui vous entament le corps sous la parka. Le conteneur décolle du sol en grinçant pour s'envoler à la suite de l'hélico. Il plane léger en direction du brise-glace qui mouille à l'horizon et qu'on reverra plus avant des mois. Seul comme une mouche écrasée, le gosse se tient au milieu du terrain où les herbes recommencent tout juste à redresser la tête. Tout de suite, je me suis demandé comment il allait tenir dans ce désert glacé. Je le revoyais punaisé à son câble comme un insecte sur du papier tue-mouche. D'abord, il avait fallu du temps pour stabiliser l'hélico. Le vent de nord-est était puissant. Ceux d'en haut avaient fait glisser le conteneur en premier. Dans l'air soufflé par rafale, il avait fallu se remuer avec Grizzly et Rock. Affronter les gifles du vent en se protégeant de l'avant-bras avec le froid qui en profite toujours pour vous faire ses baisers d'aiguilles rouillées. Dépoté, empoté à rebours, on avait fait sauter les clenches, les gants s'étaient activés pour ouvrir les portes, sortir les caisses. Ça pèse une tonne ces machins-là. Une année de repas en boîte. Peut-être quelques fruits frais, si l'entendant a bien voulu nous accorder une dose de fibres avant dans l'enfilade des haricots et des soupes qui nous bouchent le trou pire que du ciment frais. Tout ça pour garder un drapeau quand on y pense, et que d'autres troufions finissent par claironner au monde que leurs bottes sont prioritaires, ce morceau-là, il est à nous, rien qu'à nous. Au bout d'un moment, le bazar a été déchargé. J'ai pas pu m'en empêcher de penser au jour où l'hélico reviendrait chercher le gamin. Qui pouvait dire si je serais encore là, quand le bourdonnement de l'appareil reviendrait briser la coque du silence pour éditroyer en sens inverse la recrue qui serait plus vierge, mais transformée sévère par le froid et la grande nuit. Un jour ou l'autre, forcément. Dans le fond, je savais que je crèverais là. Jamais je reviendrais chez les terriens, c'était convenu comme ça. Je me laisserai envelopper dans mon manteau de fausse sagesse et le froid finira gentiment son travail. La banquise comme un linceul brodé d'avance. Mais pour un jeune soldat, même d'esprit aventureux, la solitude, l'hiver et le pater sont des sérieux ennemis. Il n'y avait qu'à voir Igor. Pauvre Igor. La charpente pourtant taillée pour cette vie-là, une mâchoire équerre plantée à angle droit sous le bonnet, des biceps bien durs qu'on devinait bandés sous l'édredon de la parka, faut le faire deviner, le nerveux d'un muscle sous les couches de laine et de duvet comme si le spectre de sa chair se baladait tranquille à la surface du manteau. À Solac, on finit par croire que la peau, les muscles, tout ce petit monde chaud et souterrain du corps, ça n'existe plus. C'est une légende de vivant. Même les entrailles sont figées, l'estomac rose en stalagmite, les intestins congelés. Malgré ses biceps bien vivants ou à cause peut-être, Igor a commencé à gripper. Et il a dû sentir qu'il se cryonéginisait de l'intérieur et s'est mis à causer tout seul. On le fait tous. Mais Igor parlait seul avec nous. C'était ça le problème. C'est par le langage toujours que ça commence. Il avait trouvé refuge dans un coin de sa tête, le seul qui crachotait encore un peu de chaleur. Chaque jour qui passait, il se repliait un peu plus fort sur ce foyer minuscule qui brûlait dans sa boîte crânienne pour y réchauffer le ragoût de sa folie. Au début, on ne s'est pas trop méfié. On l'entendait chanter, marmonner. Et puis au fil des nuits, parce que c'était pendant la grande nuit, il faut croire qu'il a cédé de l'obscurité, il a dû penser que jamais plus le soleil reviendrait. Et c'était plus qu'il pouvait supporter, Igor, cette vie de chien aveugle. En tout cas, il sortait presque plus de son baraquement et on l'entendait pleurer, crier, pousser seul des rires glaçants dans un délire incompréhensible. Ses paroles pour personne se déversaient en flots continus. On l'entendait se raccrocher aux mots comme à des balises de secours dans une cacophonie solitaire, un baragouin imaginaire. Il coulait. Je le savais bien, moi, qu'il coulait. Mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire ? À la fin, il sortait plus de sa baraque pourrie, pouffée par le froid et l'humidité, même pas pour venir manger à la centrale. Grizzly ou moi, on lui déposait son repas à la porte. On l'entendait hurler dans la grande nuit comme une satanée bonne femme qui accouche ou un loup esseulé. On pouvait plus lui parler, accéder jusqu'à lui. Les rares fois où il m'a ouvert la porte, il m'a regardé d'un œil qui jonglait seul dans son orbite à vous congeler les tripes mieux qu'une tempête de neige. Igor est sorti un matin, je dis un matin, mais c'était encore la grande nuit, si bien que le noir avait tout avalé et qu'on distinguait rien de plus qu'à 5 mètres. Il nous appelait Piotr, Grizzly, Rock qu'il gueulait. Piotr, Grizzly, Rock dans le froid et le vent du nord. Il nous a fallu du temps pour entendre. On a fini par sortir tous les trois du ventre chaud de la centrale en renfilant nos gants et nos parkas à la va-vite et en gueulant dans le tunnel devant « Quoi, putain, Igor, qu'est-ce que tu veux ?» Immense, Igor se tenait sur le seuil de sa baraque. Avec le vent, la pénombre, le blizzard, on distinguait mal son fusil calé debout entre ses genoux, canon orienté vers son menton. On devinait à peine sa masse durcidée dressée dans l'encadrement de la porte et sa bouche en sourire étrange, triste et chaud. Il a rien dit. Il a attendu qu'on soit suffisamment approché de lui dans le bleu du noir et le vent qui nous cousait les yeux. Et quand on a été à bonne distance, on a entendu la détonation. Des gerbes qui devaient certainement être roses et rouges comme un beau mélange d'œillets marins et de raisins d'ours ont volé en l'air devant nous avant de retomber en paquets de bruit sur la neige endormie. C'est pour ça la reclue. Une fois l'hélico parti avec le corps d'Igor dans sa boîte, un corps de géant sans tête qui s'était parfaitement conservé toute la fin d'hiver et même au printemps, parce que le Grand Nord, faut bien que ça ait des avantages, le gamin y tremblait plus. Plus de peur en tout cas, de froid peut-être un petit peu, il manquait d'habitude. J'ai pensé, il est trop frêle sous son équipement, il tiendra jamais, et je sais que Grizzly et Rock aussi ont pensé ça. Le gosse l'a peut-être vu dans nos regards, mais a rien dit. Il a juste enfoui un peu plus la tête dans sa parka et laissé déborder. Coincé entre son col noir et la frange de son bonnet, 2 clous bleus qui nous ont transpercés. Un regard d'iceberg déchiqueté, électrique, comme j'en ai rarement vu. Et pourtant j'en ai croisé des rageux qui vous plient le regard d'une seule paupière. Il nous a tendu à chacun une main gantée, nerveuse, sans rien dire. Nous, on a quand même dit nos noms et puis que ce serait mieux de rentrer les caisses qui traînaient encore dehors. On allait avoir tout le temps qu'il faudrait pour faire connaissance. Le gamin, il n'a pas répondu. Son visage avait quelque chose d'abîmé, de déjà vieux, de déjà mort, même, j'ai pensé. Il est passé devant nous en portant un carton. J'ai repensé à ses yeux comme 2 brochettes de glaçon, fins comme une aiguille, mais ça puait l'écorché, le coriace, les emmerdes, je me suis dit.
On a des bibles, des hymnes, des icônes. Seigneur en gars Silverstone, tout un nuancier. L'homme invisible est celui de Vater. Les chanteurs, les cercueils, les cyclones. Le convertible, les membres inférieurs. Comme le cœur, on cherche un emploi. Tout reste plié, ce qui est terrible, on a douillés intérieurs. D'aujourd'hui devenu autrefois.
Bien, ben au moins le décor est planté. Ça se passe dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud?
Non, c'est dans le... bonne question. Je crois que c'est dans le Grand Nord. Tiens, je ne me suis pas posé plus cette question-là.
Oui, bah, c'est pas
c'est
très grave.
Mais... Bon, bref. Oui. Oui, c'était... Non, c'est dans le Grand Nord. Voilà, ça passe dans l'océan Arctique.
D'accord.
Oui, voilà, je suis en train de chercher dans mes notes à toute vitesse. Oui, donc, ce lac est censé être une presqu'île sur laquelle l'État français a planté son drapeau. C'est comme
ça.
Et le drapeau est surveillé par 4 hommes en permanence, quelques militaires et puis un scientifique. Voilà, c'est comme ça que
et
ça se passe.
Et cette base, elle existe vraiment?
Eh bien, pour tout dire, Dominique, je n'en sais rien. J'ai fait des recherches sur un moteur de recherche sur Internet. Et quand on tape Solac, eh bien, on voit bien qu'il existe une presqu'île qui s'appelle Solac, donc au nord du cercle polaire.
Oui.
Mais par contre, on n'apprend rien de plus. Et je n'ai lu aucun mot sur une quelconque base militaire. Donc, il va falloir qu'on se contente de ça. Autrement dit, c'est une œuvre de fiction. Je décris un petit peu plus, du coup, l'œuvre question, oui, dans cette base, il est censé avoir 4 hommes, 2 militaires, visiblement, je le dis, mais on le comprend petit à petit, 2 militaires rejetés de leur hiérarchie. C'est pas un poste de fin de carrière.
Hein, ah, ils sont là en punition.
Ils sont là, oui, une punition, oui, ou quelque chose d'autre, au lecteur de deviner petit à petit. Et un scientifique qui s'appelle Grizzly.
Oui.
Grizzly.
On imagine un physique qui va avec.
Éloquent, le physique, exactement. Et il est là pour un projet bien précis. C'est vraiment un intellectuel, un scientifique, pour son projet précis qui va durer, lui, seulement quelques mois. Et donc, Grizzly, lui, dans quelques mois, c'est-à-dire au printemps prochain, quand l'hélico pourra à nouveau aborder la base militaire, Grizzly repartira. Voilà. Et en plus, donc, on a compris qu'il y avait un ancien militaire qui s'était suicidé. Et voilà pourquoi il y a un jeune homme qui était litroyé au début du roman. Et donc, ça donne 4 hommes que tout oppose. Ça, on peut le dire. Quatre balles en pleine tête. Le rouge gagne. Ceux qu'on dit blancs sont gris et les bleus sont marrons. Ils éclaircissent un peu l'hiver mais deviennent jamais complètement neige. Un peintre y retrouverait pas ses petits. D'habitude, Rock va plus loin, mais ce matin-là, quelques jours après notre grande virée avec le Moum, la mère et ses petits étaient presque arrivés jusque dans la cour de la centrale. Alors Rock en a profité. Tu m'étonnes, ça lui évite de marcher trop loin. 4 balles, pas une de plus. Ah, il est bon ce con. À croire que tout ce qui manque dans sa caboche, il l'a dans sa rétine. J'étais dans la centrale avec le gosse qui écrivait, je sais pas quoi, avec son foutu carnet. Il était tôt encore, la bouilloire fumait et on se pressait pas avant la corvée de fagotage qu'on avait prévue. Grizzly était déjà parti vers le glacier pour y installer sa nouvelle sonde. Il préférait y aller seul, même si c'est quand même une petite expédition. Peut-être que Rock n'aurait pas fait ça devant la centrale si Grizzly avait été là dans les parages. Toujours est-il qu'on a entendu 4 coups claquer dans l'air et en sortant de la centrale pour voir si c'était un pater, on a vu les bestioles au sol. Rock s'affairait déjà à les traîner vers la tanière, la baraque la plus isolée de ce lac, pour pas que l'odeur nous l'empeste. Là-dedans, depuis des années déjà, il a organisé un petit abattoir maison et une tannerie où il dépiaute les bêtes pour nos réserves de nourriture et son petit trafic de fourrure. C'est un malin, le Rock, con comme une mouette, mais malin quand même. Comme quoi, faut pas dire du mal des mouettes. Une fois par an, au moment du ravito, plusieurs caisses du conteneur remontent des paquets de peaux mortes et lui apportent en retour un petit matelas de billets pour ses vieux jours, comme si les jours avaient un âge. Il y avait déjà une bande d'oiseaux qui avait repéré la cervelle étalée et qui commençait son balai de charognard au-dessus des bêtes crevées. Sur le seuil de la centrale, le gosse pâlissait raide. Rock faisait des allers-retours pour porter le corps de la renarde et de ses petits jusqu'à la tanière et laissait derrière lui de grosses auréoles brunes et poisseuses. Les renardeaux étaient trop jeunes, il y aurait à peine de quoi faire des chaussons. T'en fais pas, j'ai dit au gosse qui bougeait pas. C'est pas ce qui manque par ici. Le gamin a pastillé et moi je pensais que Rock allait avoir des gants tellement dégueulasses que s'il les avait pas mieux que la dernière fois, ce serait encore une infection. C'est pas que je sois un effin, mais j'aime pas bien l'odeur de la mort. J'ai dit au gosse qu'il fallait rentrer parce que la porte était ouverte et ça allait nous glacer la centrale en 2 minutes. D'un coup, il s'est précipité dehors sans parka ni fusil. Bordel ! Je l'ai suivi en lui gueulant dessus. Hé, le gosse, ça va, calme-toi, reviens ! Mais j'arrivais pas à le rattraper, cet abruti. Je lui gueulais dessus. Tu vas pas les ressusciter, tu sais. Mais c'était comme s'il m'entendait pas. Je l'ai rattrapé à l'entrée de la tanière en nage. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai eu peur qu'il provoque Rock. Mais il s'était arrêté dans l'encadrement de la porte. Faut dire que, surtout de bon matin, ça puait à vous soulever les tripes là-dedans. Avec toutes les peaux entassées qui faisaient comme des tapis morts, il y avait une odeur d'horreur et de viscères qu'avait tout imprégné depuis longtemps. Des dizaines de fantômes, de bêtes, nous regardaient depuis leur crochet. Ce qu'il avait pas pu fourguer au dernier ravito flottait dans l'espace, des peaux de renards argentés partout. Mais il y en avait aussi, il y avait du loup, du petit gibier et pas mal de rennes dont les bois étaient entassés en vrac par terre comme des vieux fagots emmêlés. Quelques pots de patère, mais le gamin était tout neuf et regardait Rock poser le paquet de renards crevés sur le billot. Rock a relevé la tête, mégot au bec, avant d'aboyer « Fermez la porte, bordel !» Le gosse bougeait pas. Le visage de Rock s'est tendu. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il m'a regardé en désignant le gosse. J'ai levé les yeux au ciel. Rock a empoigné son couteau de chasse. Il l'a planté propre dans le ventre de la renarde qu'il a ouvert avant de s'attaquer à ceux des petits. C'est un sacré boulot, faut reconnaître. Surtout le grand gibier, très physique, parce qu'on ne peut pas attendre que la viande se mette à puer, vire verdâtre ou collante, sans compter qu'il faut dépecer très vite si on veut que la peau garde ses poils. Et ça, Rock savait s'y prendre pour dépouiller rapide. Il jouait du couteau et du racloir avec agilité, concentré, les mains plongées dans les entrailles glissantes de la bête, des giclures plein le visage qui lui faisaient comme des fausses grosses larmes de carnaval. Il avait les bras, le cou et son tablier de découpe couvert de projections et de liquide poisseux comme s'il était plongé tout entier dans un bidon de peinture sanguine. Il saisissait les abats à pleine main, en remplissait des seaux entiers avant de s'en débarrasser dans l'estuaire pour pas attirer tous les patères du coin à la fois. Il taillait de grands morceaux mal appliqués, puis des vraies belles pièces de boucherie, ça en foutait partout des boyaux, des organes, des os, du gras, des morceaux informes, et Rock finissait par disparaître sous les carcasses des bêtes, engloutis dans leur ventre. Un artiste en pleine création, un de ces illuminés en transe au milieu d'une scène baignée de sang qui faisait comme un grand opéra de viande, un vrai grand beau massacre sans spectateur. Pour le salage et le séchage, je lui prêtais la main. Ça l'intéressait pas, cette partie-là. Sans doute parce qu'on est déjà moins un pied dans le meurtre, mais plus les orteils dans la cuisine. Je prenais le relais pendant qu'il finissait de travailler les pots. Il s'affairait à les clouer sur le mur extérieur de la tanière jusqu'à ce que ça fasse une belle rangée de prophètes à fourrure qu'il laissait sécher en plein vent pendant 2 jours avant de les ramasser, de les nettoyer, les frotter, les laisser sécher une nouvelle nuit, puis les racler, les membranes superficielles et de plus en plus profondes, en faisant gaffe à surtout pas percer la peau, surtout pas, puis les graisser avec une mixture à l'odeur infâme, même pour un vieux bouc comme moi. Je parle pas du nettoyage que ça demandait ensuite, des litres et des litres d'eau pour rincer le billot et tout le bordel ensanglanté autour, à commencer par lui. Pendant que Rock s'enfonçait jusqu'aux oreilles dans ses précieuses carcasses, je gardais quelques pièces fraîches pour un ragoût et je m'attaquais au salage et au séchage de la bidoche qu'on conservait comme ça avant la glace. C'est pas que ça soit pénible de rouler la carne dans le sel, de l'emmailloter dans un tissu comme un drôle de nouveau-né sans visage. De refaire ça pendant des jours et des jours, vérifier l'écoulement du sang, l'état de conservation, mais je n'y ai jamais vu un grand intérêt parce que j'ai toujours été fainéant. j'ai vite compris que le gosse, tout nerveux et coriace qu'il était, m'aiderait pas. Qu'il préférait crever que d'avoir à faire à toute cette chair sanguinolente. C'est une infection, le renard. Ça digère le sang cru, ces bêtes-là. Et puis, même sans être superstitieux, j'ai entendu trop d'histoires sur ceux qui avaient osé bouffer de leur chair noire et qui étaient devenus cinglés après coup. Comme si le sang de la bête avait fait le grand bruit dans leur tuyauterie avant de leur faire remonter pleine balle la sauvagerie au cervelet. Igor en avait goûté, par exemple, pauvre Igor. Il disait qu'il voulait essayer au moins une fois, alors il avait surmonté l'odeur de putréfaction. Paix à son âme. Je lui ai plutôt montré la pêche au gosse. Je préfère la chair des poissons et même celle grasse et élastique de ces gros couillons de phoque. Et puis, je dois avouer que j'ai tout simplement plus de goût pour ce que j'ai tué moi-même. Depuis le temps, je sais où placer mes filets, dans l'estuaire ou sur le ru. J'ai des intuitions, je connais les lumières, les courants, les plaques de gel. Je connais la presqu'île comme ma poche. Alors, pendant des jours et des jours, j'ai expliqué au gosse. Et j'avoue que j'aimais bien ça, il apprenait vite. Même s'il passait parfois sur son visage toujours hargneux une faiblesse, un filtre aussi léger qu'une ombre, un relâchement comme un lâcher-prise de son intérieur meurtri. Quelque chose qu'il voulait cacher et que je relevais parce que c'était peine perdue. Je connais trop les hommes.
Dis-moi, c'est un univers d'hommes que tu nous décris là.
Oui,
c'est, et c'est vraiment... bien une femme qui en est l'auteur.
Et pourtant, c'est une femme qui en est l'auteur, oui, tout à fait. Et alors, ce qui est étonnant que cette année au Robles, c'est que si, sur 6 auteurs, il y avait 6 femmes.
Oui, il y en a que ça a chagriné d'ailleurs.
Et il y en a que ça a chagriné, oui, oui, tout à fait. C'est comme ça, bon. Et donc, cet auteur-là s'appelle, je rappelle son nom, Caroline Hinault. Une quarantaine, j'ai un petit peu fait des recherches sur internet, on va dire une quarantaine d'années, et je l'ai dit tout à l'heure, agrégée de lettres modernes. Et dans le groupe.
Ça aide pour écrire.
Ça aide pour écrire, exactement. Oui. Et pourtant, dans le groupe dont je fais partie, du Robles, il y a des gens que cette écriture a vraiment chagriné, et qui n'ont pas du tout apprécié ce bouquin, on peut le dire. Alors que moi, je trouve qu'au contraire...
Parce que c'est une écriture qui ressemble à du, comment dire, à du langage parlé.
C'est du langage parlé, oui. Et même rustre, on va dire. Hein, à la limite du grossier, parfois. Il faut dire qu'on imagine le bonhomme qui parle. Franchement, on ne l'imagine pas malingre.
Oui, ce n'est pas un enfant de cœur.
Et ce n'est pas un enfant de cœur, exactement. Et il s'appelle Piotr. Il s'appelle Piotr. Mais on sent le bon bougre quand même. Voilà. Et reconnaissez que la description de l'atelier de désossage, elle est quand même assez forte.
C'est mieux, oui. C'est assez fort, effectivement.
C'est assez fort. Et de la même façon, Caroline Hinault décrit très bien l'arrivée de l'hiver. Octobre. Ça faisait des semaines que l'hiver et la grande nuit marchaient côte à côte pour venir jusqu'à nous. À pas de cristaux, l'hiver était arrivé le premier. Depuis le temps, je reconnais chaque étape, et moi aussi, si je voulais, je pourrais faire un exposé aussi savant que celui que Grizzly a pendu au gamin. Fallait le voir s'enflammer sur le frasile, montrer aux gosses l'énorme paquet de paillettes blanches qu'était devenu l'estuaire une fois que l'enclume du vrai froid nous est tombée sur le crâne au début du mois. Saloperie, ça vous assomme d'un coup l'hiver arctique. Et puis le Nila, la grosse pellicule de glace souple comme une peau de lait givrée et flottante qu'allait pas tarder à se solidifier pour de bon et devenir de la bonne grosse glace de banquise bien épaisse. Je l'écoutais de loin, Grizzly. Le gosse hochait la tête sous son bonnet et je commençais à deviner ce qui poussait entre ces deux-là. Le gamin a suivi Grizzly pendant des jours pour l'aider à transporter du matériel. Ça fait pas partie de ses attributions militaires, mais comme on a pour ainsi dire, plus grand chose à faire à partir de maintenant que de s'atteler à pas crever, j'ai laissé faire. J'avais pas le cœur à tuer la petite lueur qui naissait dans le coin de son œil, d'habitude si froid et mordant au gamin. Il attendait que ça, la grande nuit et l'hiver. Peut-être bien qu'il voulait défier la puissance de la nature, se mesurer à elle, une connerie dans le genre. Ou peut-être bien qu'il était juste venu chercher l'oubli, le vide et l'anéantissement, c'est plus probable. Mais il y a loin du fantasme du grand frisson à la réalité de Solac, qui est rien que du néant au fond d'une grande bouche de froid. Il croyait savoir, mais il n'y connaissait rien, le môme. Au moins 30 degrés au gel qui vous entaille les os et les gencives, à la nuit si longue qu'on devient un peu mort-vivant, quelque part en soi, un peu comme un long voyage aux enfers en compagnie de ses fantômes. Est-ce qu'il avait conscience de l'avalage que c'était ? Sûr que non, pas la moindre idée. Pour avoir descendu jusqu'au bout le labyrinthe de ses propres intestins, reniflé l'odeur de sa propre mort, embrassé la vraie solitude avec son haleine de renard crevé pour comprendre ça. En attendant, le gosse suivait Grizzly comme un petit chien nerveux, toujours nerveux. Son visage s'intéressait, écoutait, apprenait. Rock se marrait de loin, les traitait de pédales pour rigoler, mais ça les faisait pas rire. Le gamin lui plantait ses yeux d'acier au milieu du front, sa cicatrice palpitait. Même Grizzly l'envoyait bouler, sans trop s'énerver, avec un ton qui disait toujours un peu la peur, mais aussi à quoi bon, comme si de toute façon Rock était trop con pour comprendre. Ce qui n'était pas faux, ou que Grizzly manquait de temps pour l'ampleur de la tâche, et là, faut pas exagérer, parce que du temps, en fait, on allait en avoir. Un matin, avant que la banquise entame son processus d'épaississement, comme on allait nous aussi s'ensevelir sous des couches et des couches de vêtements et de silence, on est sorti chacun de notre baraque pour aller vite fait à la centrale. Le matin, c'est toujours dur parce que nos baraques ont beau pas être très chaudes, c'est pire de traverser la cour du camp dans l'air glacé du dehors qui vous fout à poil d'un coup sec, comme on retire au lièvre son pyjama. Quand on est sorti dans le demi-jour qui respirait encore, il y avait un drôle de spectacle à nos pieds. Les bords de l'estuaire étaient couverts de milliers de grosses boules de bowling de glace déjà prises. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, mais les autres, c'était leur première. Une forêt de couilles géantes à beugler Rock, mort de rire. Et même Grizzly et le gosse ont souri. Faut dire qu'on pouvait pas penser à autre chose en regardant ces énormes burnes de glace roulées là par des vaguelettes tripoteuses. J'aurais pas su dire si c'était beau ou affligeant. Peut-être bien les deux. Les jours suivants, façon de parler, parce que ça puait la banqueroute diurne à plein nez, on a moins rigolé. Le froid s'est encore accentué. Les couilles de glace ont disparu. Les centaines de crêpes blanches qui recouvraient l'eau se sont soudées. La bouillie qui flottait encore s'est figée et épaissie. L'air dehors nous attaquait chaque heure un peu plus. Les températures s'enfonçaient dans des valeurs négatives. On sortait pratiquement pas de nos baraques ou de la centrale, sauf Grizzly suivi du gosse qui vérifiait l'état des plateformes de mesure flottantes qu'il avait posées à certains endroits stratégiques de l'estuaire et qui devaient passer l'hiver prisonnières de la glace. Et puis un matin, ça y était vraiment. L'estuaire avait disparu. À la place, un continent neuf, irrégulier, avec des congères et des crêtes qui faisaient des petites collines de meringues déchiquetées. Tout ça d'une blancheur à vous transpercer l'œil. L'hiver était là.
Thank you.
Bah écoute, même si certains mots étaient un peu crus, c'est poétique ce que tu nous as lu.
N'est-ce pas, hein ? Je trouve aussi, vraiment. Ouais. Et sans dévoiler la fin de ce petit bouquin, ça, il fait 125 pages.
Oui, donc, c'est rapide.
Oui, c'est vite lu, c'est rapide, oui, oui. Vous y consacrez 2 heures de temps et hop !
C'est fait.
C'est fait, comme un film. Eh bien, je peux vous dire que la fin, elle est totalement imprévue et même déjantée. Impossible de deviner. Dominique, des fois, dans un bouquin, on essaye de deviner la fin.
C'est vrai.
C'est vrai, surtout dans les policiers quand même. Qui est l'auteur, qui est le criminel et tout. On cherche.
Des fois même, on saute quelques pages pour aller voir.
Ouais, et bien là, dans ce petit bouquin, honnêtement, la fin, je ne l'avais pas devinée. Elle est totalement incroyable. Voilà, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous dévoiler la fin en lisant.
Ce serait dommage.
Ça serait vraiment dommage. Par contre, j'ai une belle scène à venir. J'aurais pas cru ça possible. Mais on l'a fait, bon Dieu. Dommage qu'il n'y ait personne pour se souvenir de notre héroïsme, carrément héroïsme, parce qu'il fallait le faire, sauver Grizzly et le gosse. Ça ressemble pas à Grizzly, tant d'imprudence. Et pourtant, ce matin-là, façon de parler, hein, quand je dis le matin, hein, il est parti dans l'aube noire, suivi du gosse qui a mis sa parka quand Grizzly a annoncé qu'il voulait marcher jusqu'au pied du glacier. Il devait vérifier l'état de sa sonde après la tempête de la nuit qui avait soufflé du froid, du vent, de la neige tellement fort qu'on aurait dit qu'une armée de squelettes géants s'acharnait sur nos baraques pour en arracher le toit de leurs mains d'os. Toute la nuit, ça avait soufflé à rendre désespéré. Personne n'avait pu dormir avec le raffut que ça faisait. Partir le matin jusqu'à la sonde au pied du glacier, ça voulait dire 2 bonnes heures de marche. C'était pas si loin, mais la neige, l'obscurité et le froid, ça ralentit dur. Il n'y avait pas de blizzard, pas de brouillard, plutôt la paix fielleuse qui suit les tempêtes. Grizzly a dit « Il faut que j'en aie le cœur net. Si la tempête a décroché la sonde, je perds des semaines de travail. » Alors il s'est préparé, et le gosse aussi. On n'a pas essayé de les retenir, Rock et moi. On a regardé leurs silhouettes rapetisser vers le nord, se hisser jusqu'à la pénombre, jusqu'au promontoire du menton, comme 2 petites bêtes qui auraient grimpé dans le cou de la montagne avant de disparaître complètement. J'ai passé la journée à somnoler le cul au chaud dans mon fauteuil près du poêle. Rock est rentré dans la centrale, je lui ai servi du thé fumant et je lui ai dit que Grizzly et le môme n'étaient pas rentrés. Rock a soufflé sur son quart brûlant « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ?» J'ai insisté. S'il fallait aller les chercher, c'était maintenant, surtout que le vent semblait se lever de nouveau et que la tempête s'était peut-être qu'endormie molle avant de revenir nous souffler sa rage en pleine face. J'allais pas lui faire un topo sur les chances de survie dehors, surtout en cas de gros temps. Rock a marmonné quelque chose et on a attendu longtemps avant de reparler. Chacun de notre côté, on soupesait l'intérêt de l'expédition autant que celui de les aider à rester en vie. Au bout d'un moment, quand même, j'ai tranché. C'est moi le chef. J'ai dit, faut y aller. Rock a pas dit oui. J'ai ajouté que je pourrais pas y aller sans lui. Il faudrait qu'on prenne un traîneau, le sien, qui est de loin le plus solide, parce que celui de l'armée part en lambeaux depuis des années, alors que Rock en a fabriqué un avec des liens costauds, avec 2 grandes planches héliportées il y a longtemps lors d'un ravito. Bizarrement, c'est cette idée-là qu'a eu l'air de le décider. Trimballer de la viande vivante plutôt que morte sur son traîneau pour une fois, ça a eu l'air de le faire sourire. C'était pas une petite promenade de santé. Non seulement fallait traîner le chargement chacun une courroie à l'épaule dans la nuit polaire, le vent glacé entourant l'obscurité avec nos lampes frontales et en faisant gaffe où on posait les pieds, mais en plus fallait avancer au même rythme pour faire gentiment glisser le traîneau sans à-coups ni gâchis d'efforts. Rock est plus costaud que moi, et c'est pas vraiment une danseuse étoile, question rythme d'ensemble. Mais je voulais pas avoir l'air d'un chien galeux, alors j'ai un petit peu forcé. même quand on se trouvait à contre-temps pour tirer la charge et que j'en sentais tout le poids sur mon épaule, je donnais le change. Au bout d'une heure, j'avais le cœur dans la bouche, les poumons dans les reins, et ça me faisait un mal de chien dans tout le corps. Je pensais que ça pouvait pas être pire, mais la tempête s'est réveillée. On avait dépassé le menton depuis un moment, et le vent s'est mis à souffler de plus en plus fort. Les flocons à tourbillonner méchants au-dessus de nos têtes, comme des sans-têtes de fées mauvaises. On disait rien, on mettait un pied devant l'autre, sans bien deviner la trace de nos crampons dans la neige et le sombre. Coûte que coûte, concentré sur l'effort physique, tourné vers le dedans, la chaleur de nos ventres. Ça devenait difficile de voir à plus de quelques mètres, avec le vrai soir qui enfonçait encore plus l'obscurité sous la peau des ténèbres et toute cette neige qui nous collait les cils. Je scrutais tant bien que mal autour de moi. Au bout d'un temps aussi étiré que toute cette foutue blancheur plongée dans le noir, j'ai distingué une forme qu'aurait pu être un patère, mais qui était bien une silhouette humaine, à peine discernable dans les flocons et la nuit. Ça remuait et brandissait une faible lumière de lampe torche. Le gosse et Grizzly s'étaient abrités sous une énorme congère. Ils en avaient gratté le pied pour creuser un abri sommaire où était allongé Grizzly. Par des gestes entrecoupés, le gosse nous a monté Grizzly et fait comprendre grossièrement ce qu'on découvrirait plus tard, qu'il s'était pété la jambe en évitant une crevasse, ce con. Avec la nuit, le vent, les tourbillons violents de flocons, on risquait pas de deviner la torsion bizarre que faisait sa jambe dans son surpantalon. Mais à voir son corps étendu par terre, on pouvait supposer que ça allait pas fort. Toujours avec des signes de la main, on a compris que le gosse allait à peu près bien, lui, dans la mesure où on pouvait dire ça dans cet enfer qu'allait tous nous tuer glacés si on restait trop longtemps plantés là à faire les marionnettes. Le gosse était sans doute pas loin de l'hypothermie, mais il pouvait encore marcher et c'est tout ce qu'on lui demandait. Rock et moi, on a soulevé Grizzly qui pesait une tonne, ce gros lard, avec tout son équipement. Quand on l'a sanglé sur le traîneau, dans le halo de ma torche, j'ai vu sa bouche grimacer de douleur. C'était bon signe. On est reparti vers l'estuaire en traînant notre colis sur la neige dans l'espace bleu-noir, nos lampes frontales balayant autant que possible la piste vaguement destinée à l'aller. La marche a été interminable. Alors on n'était pas si loin du menton et du camp finalement, mais le froid était indescriptible. Nous faisait des décharges électriques dans le corps, comme si des milliers de guêpes blanches attaquaient notre peau sans répit, piquaient chaque infime parcelle de chaleur pour la dissoudre, jusque dans le revers des gencives et le dessous des paupières. Quand enfin on est arrivé au menton et qu'on a aperçu le camp en contrebas, je dois avouer que j'ai été content de ne pas être mort cette fois-là non plus. Comme quoi, une fois devant la centrale, c'était pire que la débâcle de la banquise qui se morcelle, craque, siffle et grince de partout au printemps. Il a fallu se débarrasser de tout notre attirail trempé, détacher Grizzly du traîneau et le porter à l'intérieur où on l'a allongé le plus près possible du poêle sur une peau de renne qui traîne dans le bazar de la réserve depuis la nuit des temps. Il avait toujours les yeux fermés, ses lèvres étaient du bleu de sa veste. Le gosse et moi, on s'est regardé, l'air de dire quoi faire. C'est le gosse qui était pourtant au-delà de l'épuisement et qu'avait à peine enlevé sa parka et son équipement trempé qui a su. Il s'est mis à déshabiller Grizzly avec des gestes précis, aussi efficaces que le lui permettaient ses doigts congelés. Je l'ai aidé à enlever la parka et les vêtements glacés en dessous. Le gosse est allé chercher des couvertures sèches dans la réserve. Il a pris le bonnet encore chaud sur ma tête et l'a mis à Grizzly, l'a couvert de couverture, l'a frictionné sans toucher à sa jambe gauche qu'on devinait pas d'équerre. Grizzly bougeait pas. Pendant ce temps, j'ai rempli nos gourdes d'eau chaude, façon bouillotte qu'on lui passait sur le corps, et deux qu'on a placées sous ses reins. Le gosse et moi, on aurait dit des masseuses occupées à pétrir un client comateux. Je ne sais pas combien de temps on est resté comme ça à le secouer, le malaxer, le frictionner, le réchauffer. Au bout d'un temps interminable, comme Grizzly réagissait toujours pas, j'ai vu passer l'idée sur le visage du gamin. Il s'est relevé, a soulevé rapidement les couvertures et s'est allongé fissa sur Grizzly, face contre face, en rabattant les couvertures sur eux, en prenant soin de ne pas appuyer sur la jambe du blessé. Rock a éclaté de rire. C'est pas vrai, putain, qu'est-ce qui lui prend encore à celui-là ? Mais le gosse s'en foutait et remuait maintenant de haut en bas, doucement mais sûrement. Il glissait régulier sur le corps de Grizzly, les paumes des mains de chaque côté de son visage, comme un homme baise sa femme avec dévotion. Il lui soufflait son haleine, et ça, c'était plus que Rock pouvait supporter. Ce semblant de sexe chorégraphié en plein milieu de la centrale, sous nos yeux, cette intimité du gosse qui glissait sur le corps de Grizzly, qui se frottait contre lui encore et encore. Même moi, j'avais reculé et j'avais arrêté de frictionner Grizzly. Je faisais pas partie de la scène. Rock a vomi un saut d'insanité, mais le gosse a même pas relevé la tête, concentré sur sa tâche. Tout son corps enseveli sur les couvertures, occupé à colisser sur le corps de Grizzly, cherchant à insuffler la chaleur et la vie au corps géant sous lui. Un moucheron accouplé à un scarabée. Le gosse a encore rampé, ahanné, soufflé sur Grizzly pendant de longues minutes. Rock a fini par se lever, se verser un thé fumant, se couvrir et sortir de la centrale en claquant la porte parce que je crois bien qu'il aurait préféré les voir baiser en vrai que d'assister à ça, à la version maquillée d'un truc insoutenable pour lui, comme quoi. Plusieurs fois, le môme s'est arrêté, plus essoufflé qu'un amant exténué. Il s'est allongé complètement sur Grizzly, qui ressemblait toujours à un gisant de cathédrale. Le gosse veillait toujours à pas déposer le poids sur sa jambe cassée. Et puis il est reparti, il s'est frotté de nouveau, lentement, pris en sandwich entre la couverture et le corps inerte. Il a recommencé pendant de longues minutes. Et Grizzly a toussé, doucement d'abord, puis sûrement. Il a toussé, grimacé, et ouvert des yeux exténués de vivant.
Rolling up the vote, I took my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint and change of color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue. To love if you're not taught to. How do you dream of freedoms on a curfew? Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got a heart for the of a nation, breaking up the euros at the station, visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you.
Taking toll, we roll.
Merci Hervé. C'était quelque chose de fort. Hein.
C'est oui, un oui, livre. Oui, tout à fait. Hein. Un petit livre, mais assez fort. Donc vraiment, je recommande de le lire.
Bien. Et j'aime bien cette écriture. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de parler.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ils sont pas très nombreux les auteurs qui écrivent de cette façon.
Non,
moi, je me souviens de Cavanna. J'adorais Cavanna.
C'est ça, oui, voilà.
Bouquin héritable, mais ça remonte au siècle dernier, ça. C'est.
Et je me suis aperçu que c'était pas si facile que ça à lire, d'ailleurs. J'ai quand même bafouillé quelques fois.
Effectivement. Ouais. Alors, notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Je préviens les auditeurs et les auditrices que Dominique Patou, il est sur les manettes en même temps qu'il parle.
C'est vrai, de temps en temps, il a des silences. Un petit peu le lancement du générique.
Allez,
mais ça n'est pas très
fois.
Grave. Donc la prochaine fois, ce sera Catherine.
Ça sera Catherine, oui, oui. Ou nous deux, peut-être. Hein, on ne sait jamais. On prépare jamais un mois à l'avance. C'est comme ça.
Bien. On peut toujours te demander ce que tu liras la prochaine fois.
Et je ne sais
comme
pas.
Comme ça. Mais de toute façon, on le saura.
On adore les surprises.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au mois prochain pour de nouvelles lectures. À bientôt.